Les beaux Congo.
Radio Okapi. Le beau Congo. À tous, c'est un plaisir de vous retrouver, fidèle auditeur de Radio Capi, pour un nouveau numéro de votre émission Le Beau Congo. Le cimetière des pionniers de Kinshasa nous intéresse. Nous en parlerons dans cette émission avec notre invité. Il s'agit du professeur Joseph Ibongo. Il est directeur général de l'Institut des Musées Nationaux. Et avec lui, nous allons échanger durant toute cette émission pour vous faire découvrir ce site. Bienvenue une fois de plus à vous tous sur la FM et même sur la toile. RadioCapi.net, je vous retrouve dans quelques instants. L'un des sites historiques de Kinshasa le plus méconnu par le gros des Kinois, c'est le cimetière des pionniers. Il s'agit de ce que l'histoire coloniale appelle les pionniers bâtisseurs du Congo. Et selon l'histoire et les archives nationales et coloniales belges, le cimetière des pionniers est créé vers la fin du 19e siècle. C'était un grand espace où sont inhumés plusieurs collaborateurs de Stanley et d'autres pionniers. Et puis, il est dans la commune de Ngaliema, sur le flanc nord du mont Ngaliema, face au fleuve Congo. C'est entre à l'est le théâtre, à l'ouest se trouve l'ancien jardin botanique. Le cimetière tourne le dos à la cité de l'OUA. Jean-Didier Ogobani nous fait la description de ce site. Suivez.
L'entrée vers le cimetière se trouve entre l'avenue du tourisme et la maison communale de Ngaliema. Quelques minutes de marche et une allée bordée de manguiers se donne sur votre gauche. C'est une allée de manguiers séculaire d'environ 200 arbres. Elle conduit droit au cimetière des pionniers. L'entrée est gardée par les militaires. Ils assurent la garde du site des musées nationaux. À ce cimetière se trouve inhumé le corps des pionniers bâtisseurs du Congo. Il s'agit des premiers étrangers venus en RDC. Le premier corps enterré en ces lieux est celui du lieutenant Nicolas Grand, mort en 1883. À côté du théâtre de la Verdure, des stèles et des croix funéraires sont visibles. Deux tableaux placés de part et d'autre nous renseignent sur les noms des pionniers bâtisseurs inhumés sur ces lieux. C'est une centaine de personnes enterrées sur place. Selon M. Franklin Mouboabou-Mbombe, directeur de collection technique à l'Institut des Musées Nationaux du Congo, toutes ces personnes sont décédées entre l'âge de 30 et 35 ans.
D'ailleurs, là, on a représenté seulement un échantillon de 1800 et on a commencé en 1900. Donc, il y a encore de 1900 jusqu'à 1910 que les noms ne sont pas ici, qu'on peut retrouver là aux archives. Nous, Congolais, nous sommes autochtones et nous appartenons à notre territoire. Mais il y a quand même les colons ou les explorateurs qui sont arrivés et qui nous ont aidés à bâtir des grandes villes, telles que la ville de Kinshasa. Pour avoir Kalina, pour avoir la cité de l'OIA, ce sont ces gens-là qui sont venus pour nous aider à construire notre pays. Donc c'est comme ça qu'ils sont les pionniers, les premiers à avoir l'idée de construire des villes. C'est ici où Henri Morton Stanley a signé le pacte d'occupation avec le roi Ngaliema. Ngaliema, c'est un chef teke qui a occupé ce site. Et sur ce site, il y avait aussi un marché d'esclaves. Et sur ce site, lors de la Deuxième République, les institutions de la Deuxième République, c'était ici au mont Ngaliema. Jadis appelé Mont Stanley parce que c'est ici Stanley a habité. Mais nous sommes dans l'impossibilité de vous dire que c'était sous cet arbre, mais c'est sur ce site. C'est comme ça que nous disons, c'est vraiment un site historique. Ici, c'est, d'ailleurs, c'est ici où se trouve et c'est l'aboutissement de la route des caravanes d'Henri Morton Stanley. Et comme il devait construire et habiter ici, c'est comme ça qu'il a essayé de dessiner les pactes. En principe, ils sont venus avec Savonia de Brazza au même moment. Et Savonia a signé avec le roi Makoko à Brazzaville et lui est venu de ses côtés, il a été aidé par, selon les informations que nous avons, par un de ses collègues qui aurait épousé la fille de Ngaliema et ils ont eu deux enfants. Et c'est comme ça, même dans les recherches, nous sommes en train de chercher si on pouvait retrouver un jour ces deux enfants-là parce qu'on nous dit qu'ils sont encore en vie. Donc voilà l'importance de ce site. Il a signé ce pacte-là pour l'occupation de ses côtés, pour que Savonia de Brazza ne traverse pas et occupe Brazzaville et Kinshasa.
Un balayage visuel sur le cimetière vous renvoie l'image d'un site dans un état de total abandon. Il est difficile de voir les tombes et les croix funéraires de certains pionniers. La nature a repris ses droits. Seules les tombes de la première rangée sont visibles. Les autres sont englouties par les herbes et les arbres poussent à la faveur de la chaleur, de la pluie et le manque de désherbage. Même la suite de la balade est impossible. Ceci, selon Franklin Mubwabu, est une conséquence des difficultés énormes d'entretien. Ce dernier entretien du site remonte d'il y a 7 ans. C'est un entretien à l'appui de la MONUSCO. Depuis plus de 3 ans, le site ne reçoit même plus de subventions de l'État congolais. Franklin Mubwabu plaide pour le soutien du ministère de la Culture et des Arts et d'autres partenaires pour entretenir et conserver ce site, riche en une identité historique et touristique.
L'entretien pose problème pendant la saison des pluies parce que à chaque fois qu'on coupe les herbes, la pluie fait germer les fleurs et les plantes. Nous devons d'abord, premièrement, attendre des subventions de l'État quant au fonctionnement avant d'aller aux partenaires. Mais ce que nous remarquons, plus nous sommes chez les partenaires pour le fonctionnement ou pour les réaménagements du site que chez l'État. Donc c'est comme ça que nous demanderons aux autorités de mettre l'accent. Nous devons recevoir des touristes. Le tourisme vient, d'abord la culture vient en amont et le tourisme en aval. C'est-à-dire que nous sommes là pour aménager les sites et les touristes viennent pour consommer. Mais si cela s'avère le contraire, vous verrez que la culture va perdre son sens et les touristes n'auront pas de quoi à visiter. Je peux dire que ça fait au moins 3 ou 4 ans, que les frais de fonctionnement n'arrivent pas. C'est comme ça que nous voulons que l'État prenne des choses en main et que les subventions soient régulières pour que nous puissions aménager ces sites.
Le cimetière des pionniers se meurt de sa lente et mort certaine sur le flanc ouest du mont Ngaliema. Les quelques croix visibles regardent s'écouler impassiblement les eaux du fleuve Congo.
Et en ce qui concerne le cimetière, je voulais suivre M. Franklin Mubwabu. Il est directeur de collection technique à l'Institut des musées nationaux du Congo.
Qu'est-ce que les gens peuvent venir découvrir ici? Qu'est-ce qui peut attirer les touristes à venir au cimetière des pionniers bâtisseurs du Congo?
Bon, le site de Mont Ngaliema, c'est vraiment un site touristique parce que nous avons une salle d'exposition dénommée Joseph Aurélien Cornet qui a été inaugurée le 11 mars 2010. Nous avons 5 réserves où quand nous avons des chercheurs, ils peuvent venir mener leurs recherches pour leurs publications. Nous avons un musée en plein air où nous présentons les monuments coloniaux. Nous avons la baie de Ngaliema, un beau aspect de voir pour voir les rapides, où commencent les rapides de Ngaliema et puis jusqu'à Matadi. Et nous avons le cimetière des pionniers. En plus, c'est ici où se déroule le festival Toseka. Nous avons l'amphithéâtre de Verdir et nous avons le village artistique. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on venait d'organiser la foire Automoto 2017, où on a exposé les motos et les véhicules des différentes marques ici sur ce site où nous appelons village artistique. Donc, si vous venez, et puis nous avons les mangues séculaires, certaines dates de Stanley. C'est comme ça que nous ne voulons pas qu'on puisse les abattre de n'importe comment. Voilà un peu l'aspect touristique. Donc, si vous venez, il y a vraiment de quoi à se rendre compte de la richesse culturelle de notre pays.
Ça.
Oui, nous sommes ouverts de lundi à dimanche pour les visiteurs, mais pour les travailleurs, c'est de lundi à vendredi parce que nous fonctionnons avec le système anglais. Donc, la semaine anglaise, donc les visiteurs peuvent venir, nous sommes ouverts. Je sais que quand les gens arrivent, ils pensent que les militaires qui sont à la porte, c'est vraiment un blocage. Non, ils sont là pour veiller à la sécurité du patrimoine.
On dit que c'est un domaine présidentiel, on n'y va pas n'importe comment, on va vous chicoter et tout ça.
Non, je vous ai dit que pendant la Deuxième République, c'était le siège des institutions de la Deuxième République. Mais vous devez savoir qu'on a tenu des ateliers avec les militaires sur la sensibilisation, la mobilisation, comment recevoir. Donc, ils sont vraiment sensibilisés. Quand les gens arrivent, ils les font passer. Donc, n'ayez pas peur, venez toujours, vous serez bien reçus et par les militaires et par les conservateurs du musée. Nous avons des difficultés quant à la conservation des objets. C'est comme ça que l'entrée est payante. C'est-à-dire que pour les nationaux, c'est pratiquement 1500 et pour les expatriés, ils payent quand même un peu élevé parce que nous devons conserver le patrimoine. Voilà.
Donc les nationaux payent 1500, le site reste ouvert de lundi à vendredi.
De lundi à dimanche pour les visiteurs.
À partir de quelle heure jusqu'à quelle heure?
De 9h à 15h.
De 9h à 15h pour les visiteurs. Oui. Un numéro de contact?
Bon, pour un numéro de contact, je vous donne le numéro de notre autorité parce que c'est par lui qu'il faut toujours passer. C'est le 09 98 271 900.
Professeur Joseph Ibongo, nous venons d'écouter encore ce deuxième reportage. Les Congolais ont cette psychose sans doute due soit à la présence des militaires ou soit, comme vous l'avez dit, à la présence à l'époque du feu président Mobutu. Mais que faire pour enlever justement cette psychose dans la tête des gens?
Nous essayons d'exorciser le site. Mais je pense que c'est surtout le programme éducatif que nous avons mis en place à l'Institut des musées nationaux du Congo, mmh, et aussi cette ouverture au monde, cette ouverture au public, aux différents publics, et qui fait que il y a cette fréquentation également. Nous avons ouvert et depuis quelques années l'amphithéâtre de verdure qui attire des milliers de personnes qui viennent pour suivre différents spectacles et assister à notre festival qui est déjà devenu légendaire, le festival Toseka. Et donc et nous organisons donc des visites guidées et à l'intention des scolaires. Nous recevons plusieurs visiteurs sur le site. C'est cela qui fait que de plus en plus le site est non seulement qu'il est attrayant, mais il est attractif. Il est fréquenté actuellement par de nombreuses personnes qui visitent l'Institut des musées du Congo. Et puis nous avons mis en place une salle d'exposition permanente. N'oubliez pas qu'en 2000, depuis 1970 jusqu'en 2010, il n'y avait que des collections nationales. Et les visiteurs qu'on recevait au musée, on était obligés de les faire entrer dans les réserves.
Mais là, c'est le musée. Et donc, oui. Qu'en est-il du cimetière?
Non, le cimetière fait partie justement de ces circuits éducatifs, mm-hmm, que nous avons mis en place. Parce qu'en 2010, nous avons essayé de le réhabiliter, de rénover, d'y mettre un peu de propreté, etc. Mm-hmm. Pour que finalement, et le cimetière des pionniers, nous avons dit, le concept, c'est on va de la vie à la mort, mm-hmm, n'est-ce pas? Même dans le cycle de la vie, mm-hmm, il y a la naissance, il y a le cycle initiatique, il y a donc des initiations. Initiations et toutes sortes de moments également de passage de la vie, de l'enfance à la vie adulte et finalement à la mort. Et la mort, c'est le cimetière des pionniers. Mais nous, les morts ne sont pas morts. Vous savez, les morts ne sont pas morts chez nous en Afrique. Oui. Et donc, c'est pour ça que nous avons essayé de réhabiliter le cimetière de pionniers et donner de la vie à ce qui est symbole de la mort, à ce qui est lieu où repose en paix, hein, de nombreuses personnes. Mm-hmm. Le cimetière, pour nous, c'est la vie également, dans l'entendement éducatif. Il faut préparer, c'est-à-dire les enfants, mm-hmm, qu'à un moment donné, lorsqu'on est, on grandit, on va à l'école, on est instruit, on est éduqué, on se marie, et on peut même être investi de pouvoir, etc. On travaille, mais attendez-vous à la mort. Et donc la mort, pour nous, n'est pas une fin en soi. Pour nous, la mort aussi est un passage. Et là, on le sait très bien. Les actes d'éducation et on doit croire, il y a des valeurs justement qui vous poussent à croire que après la vie adulte, il y a la mort, mais après la mort, c'est un passage à une autre vie. Mm-hmm. Et cela, pour nous, le cimetière, après sa réhabilitation, nous faisons passer les enfants, les scolaires et tous les chercheurs à cet endroit pour qu'ils apprennent également aussi des valeurs liées à la mort.
Vous écoutez Radio Okapi, émettant de Kinshasa. Nous mettons à votre disposition l'information sportive nationale et internationale. Une équipe de 4 journalistes reporters se penche sur l'actualité dans ses moindres détails. Des enquêtes, des reportages, des directs, des journaux en synthèse et 4 heures non-stop de tours de correspondants chaque dimanche. Radio Okapi, l'info c'est aussi le sport et au pas de course.
De façon concrète, professeur, quand vous parlez de réhabilitation, qu'est-ce qui a été fait?
Ben écoutez, le cimetière était même spolié à un moment donné. Il y avait toutes les stèles qui étaient là, les croix étaient volées. Hein. Certaines ont été volées. Mais qu'est-ce qu'on a mis? On a dû reconstituer certaines tombes. On a d'abord essayé de mettre de la propreté dans l'ensemble du cimetière. On a reconstitué certaines tombes. On a remis sur deux tableaux, ce que vous avez vu, les deux tableaux, où l'on a inscrit les noms de tous ceux qui avaient été enterrés. Mmh. On a fait un travail de recherche. On est allé aux archives nationales. On a découvert les noms des personnes qui avaient été enterrées là, leur date de naissance, leur date de décès, le travail qu'ils ont fait chez nous, les fonctions qu'ils ont pu exercer dans notre pays, leur appartenance leurs origines, notamment à quelle nationalité ils appartenaient. Et tout cela nous a permis donc aussi de reconstituer les noms des personnes et leur nationalité. Et en ce moment-là, en fait, c'est par devoir de mémoire. Vous savez, ils méritaient notre hommage pour le travail qu'ils ont rendu à notre pays. Et on a besoin qu'on le ressuscite, qu'on ait une mémoire à leur intention. Mmh. Et donc, pour nous, ça a été cette manière de réhabiliter ces personnes, c'est de leur rendre hommage et que là où ils reposent, ça soit propre et donc on puisse recevoir tous les visiteurs qui viennent. Nous avons reçu comme ça des Polonais qui sont venus et qui ont reconnu leurs ancêtres, leur aïeux. Wow. Et ça a été très émouvant de voir que, tiens, ils ont reconnu leur aïeux, leur ancêtre. Et cette relation, j'allais dire émotive, affective avec l'ancêtre, eh bien, ça a été pour nous également un moment de retrouvailles, mais aussi du respect de personnes qui ont dû travailler pour notre pays.
Nous poursuivons donc cette émission Le Beau Congo avec vous, professeur Joseph Ibongo. Vous êtes directeur général de l'Institut des Musées Nationaux. Vous êtes donc notre invité aujourd'hui. Et donc avec vous, nous sommes en train de parler du cimetière des pionniers, j'allais dire. Est-ce que ces Polonais qui viennent visiter ce site, finalement, vous n'avez pas peur qu'à la longue, ils puissent exiger de récupérer les dépouilles de leurs aïeux?
Ben, ça ne serait pas non plus rendre et faire justice à ce pays qui a besoin de voir aussi des vestiges, de garder l'histoire de son, j'allais dire son histoire, d'avoir cette mémoire vive. Je pense que ça ne serait pas intéressant. Enfin, ce qui est important, c'est de savoir que, tiens, on sait que là repose les Hongrois, les Portugais, les Italiens, les Français, les Belges, les Britanniques, mais aussi les Congolais. Et donc, ça, c'est ce qui est important de savoir. Il est bon de savoir que ce pays, pour devenir ce qu'il est, plusieurs personnes, plusieurs pays ont dû travailler pour ce pays. Mm-hmm. Qu'il y a donc, c'est un pays, la ville de Kinshasa-Dépolville, à l'époque, c'est une ville cosmopolite. Et donc, au-delà des anciens villages, parce que là où nous sommes au Mont Galima, c'est l'ancien village de Mpumbu de Ngalima. Mm-hmm. Et donc, il n'y a pas eu que des autochtones. Il y a eu aussi d'autres qui ont vécu dans cette ville. Et donc, c'est aussi rendre, bien dire, comment dirais-je...
Comme dire que ce site n'a pas été choisi en vain,
c'est pas en vain. Et regardez un petit peu là où nous nous trouvons, c'est au bord du fleuve Congo. Et on surplombe la baie d'Ungalima, qui est le Stanley Pool. Mm-hmm. Et au Stanley Pool, à la baie d'Ungalima, c'est le point de départ de Stanley avec ses trois steamers, ses bateaux, dont Lady Alice, pour la découverte du bassin du Congo. Et donc, c'est un peu le point de départ de développement de la ville. C'est le noyau principal de développement de la ville. Donc, c'est important. On est à côté de l'ancien port de Leopoldville. Mmh. Et nous sommes à un endroit où se rencontrent les populations du nord et du sud. C'est un lieu de marché, un lieu de départ, de contacts, de rencontres, des peuples, des civilisations aussi. Mmh. Et donc c'est important que ce cimetière qui est là devienne comme une espèce culmine. C'est la, donc les rencontres, les contacts culminent, j'allais dire, sur le cimetière, qui fait une synthèse en fait. Nous travaillons, et j'allais dire dans la durée, nous travaillons avec les scolaires. C'est aux enfants, c'est aux jeunes qu'il faut dire des choses. Parce que des choses, quand on leur dit, ça leur construit, ça les forme, ça les éduque et ça les instruit. Mmh. Et les vieux, enfin les adultes, ils viennent également par ricochet. Mais lorsque l'on vient assister à des concerts ou autres à l'amphithéâtre de Verdure,
c'est une occasion.
Eh bien, c'est une occasion, une opportunité. Lorsque l'on vient visiter la salle d'exposition permanente et on leur dit, il existe le cimetière de pionniers. Mais il y a toute une tentation d'aller voir le cimetière de pionniers. Mmh. Et lorsqu'on leur dit que, tiens, à l'amphithéâtre de Verdure, il y a eu des manifestations importantes comme l'épopée Liange qui était montée là pour la première fois. Mais ça suscite la curiosité. Donc c'est un site où, mythique où l'on, qui suscite tant de curiosité. Et on veut bien connaître et ce qu'il y a au-delà de l'amphithéâtre de Verdure, au-delà du musée, au-delà des collections. Mais vous avez tous les manguiers séculaires datant pour certains de l'époque de Stanley. Vous avez la vallée où Mobutu a pu organiser son jardin zoologique.
Est-ce un problème d'information finalement?
Peut-être un problème d'information, mais aussi, écoutez, nous ne pouvons pas tout faire. C'est pour ça que nous pouvons être relayés par des radios comme la radio Capi, par des télévisions, par des journaux, par la presse, etc. Et par des chercheurs. Et donc, tous nous participons également. Le musée doit organiser ainsi, comment dirais-je, c'est un lieu participatif où de nombreuses personnes sont invitées et à venir. Il y a des artistes, n'est-ce pas? Mais vous savez, un clip peut être monté au cimetière des pionniers. Le cimetière des pionniers peut être source d'inspiration de la musique aussi, ou même de création. Et donc, voyez-vous que nous offrons ces prétextes à toutes les personnes, aux chercheurs, aux enfants et à toutes les populations. Nous offrons ces prétextes pour d'éducation, de socialisation, d'instruction, de recherche, etc., de création ou de créativité, si vous voulez, pour employer le mot qui me paraît plus important. Parce que il faut que les gens aient de la créativité. La créativité est suscitée par ce que l'on voit, par ce que l'on connaît, et par ce que l'on voit, par son environnement, par l'univers auquel on appartient. Mmh. Donc c'est tout cela qui sont des sources, j'allais dire, de prétextes à éducation.
Professeur, il y a un autre aspect que j'aimerais bien évoquer, le tourisme. Est-ce que vous pensez que le tourisme aujourd'hui est suffisamment développé pour pouvoir vous emmener ces touristes, permettez-moi de le dire, qui devraient ou qui doivent venir visiter ce cimetière?
Eh bien, on parle actuellement évidemment de tourisme culturel. Effectivement, le musée offre ces parcours touristiques aux visiteurs et aux touristes. Nous sommes en contact, en partenariat avec Jumbo. Jumbo qui est une agence touristique qui est animée par Madame Lisa. Mm-hmm. Nous sommes également en contact avec beaucoup d'agents. Médard Tamboué, qui est resté longtemps directeur au cabinet de tourisme, également.
Justement, qu'en est-il avec le ministère du tourisme, justement?
Le ministre du tourisme, en tout cas, il a justement, il sait que le patrimoine culturel notamment, lui donne également de la matière. Parce que nous avons entre le ministère du Tourisme et le ministère de la Culture et des Arts des matières qui ne sont communes, comme justement le patrimoine, les sites, et comme la route des esclaves, beaucoup d'autres, des monuments, des édifices publics, etc. Donc nous avons comme ça beaucoup d'éléments qui ne sont communs. Et de sorte que lorsque nous faisons de la promotion du patrimoine, le tourisme en fait la promotion est touristique. Et donc, il y a comme ça de collaboration avec le ministère du tourisme. Et le tourisme vient au musée avec des touristes. Et le musée est inscrit déjà dans le parcours touristique, justement, du ministère du tourisme.
Est-ce un problème de financement, finalement?
Mais le financement, effectivement, il se pose partout dans les institutions publiques, le financement. Mais je pense qu'aussi la volonté de vouloir ouvrir ce que nous avons à d'autres, eh bien, est aussi important, parce qu'il ne faut pas attendre toujours de gros financements, mais on peut faire des actions, petites soient-elles, pour que cela suscite également l'envie de venir voir le musée, l'envie de venir voir le site et l'envie de voir le touriste se balader et dans nos installations.
Merci beaucoup, professeur Joseph Ibongo. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Institut des musées nationaux. Avant de vous laisser partir, est-ce que vous avez un message à adresser à tous ces auditeurs qui vous suivent dans cette émission Le Beau Congo?
Vous avez évoqué au départ que c'est pas toujours agréable de visiter le cimetière parce ça fait peur et c'est des suites. Mais je pense que c'est le moment de dire à tous ceux qui nous écoutent en ce moment-ci que notre ville a des beaux sites qui méritent d'être visités. Et que du point de vue du patrimoine, du point de vue de la culture, nous avons également des sites que nous offrons aux visiteurs. Comme les musées. Au pied du monument des changeurs, on peut aller visiter la salle Culturama, où nous projetons en espèce de panorama des cultures d'Égypte et du Congo, et également le patrimoine naturel des deux pays. Et donc, là, on peut voir également ces expositions dans la salle d'exposition d'art contemporain et des multimédia. Voilà les sites que nous présentons. Mais en dehors de cela, vous avez tous les autres monuments parsemés dans la ville. Bien que notre ville n'a pas beaucoup de monuments, mais quand même, il y a des places importantes, comme à l'échangeur, bien sûr, vous avez le monument Lumumba, mais vous avez le monument Kasavubu, vous avez la place des artistes, vous avez le monument vous avez le monument, le socle sans
le
monument.
Le musée de l'échangeur, c'est le musée panoramique, c'est ça?
C'est plutôt le Culturama, le Culturama, qui est un des aspects du musée d'art contemporain et du multimédia. Mais sinon, c'est un musée qui remplit toutes ses fonctions. Il y a eu des grandes expositions qui ont eu lieu à ces musées de l'échangeur. Et par exemple, le premier festival, la première biennale d'art contemporain, le festival du cinéma de Kinshasa, mais aussi l'exposition de haute photo presque que nous avons organisée également à l'échangeur, mais d'autres événements également importants que nous organisons. C'est un lieu d'échange, d'échange entre les artistes et les professionnels du musée, d'échange entre les opérateurs culturels. Par exemple, maintenant, nous sommes dans un atelier, un beau projet initié par le Musée royal d'Afrique centrale de Tervuren, et intitulé « Voix contemporaine et écho des mémoires », où les collègues qui sont venus de Tervuren, également non seulement de Tervuren, des universités comme l'université de Lubumbashi avec le professeur Donatien Diboué, et puis un couple qui pilote justement ce programme, notamment le Patrick et Sari, son épouse, et aussi des universitaires comme ceux de l'INA, avec le professeur Yuka et le professeur Boukash Kalel de l'Observatoire de langue, où nous avons réfléchi ensemble sur des questions relatives au patrimoine et à sa mise à disposition au public. Et nous avons reçu le bonheur d'ailleurs de recevoir un collègue, le directeur Bruno, qui pilote la direction opérationnelle de services au public du Musée royal de l'Afrique centrale, qui est venu avec ses deux, avec Bambi Kepens et Christine Buard, pour justement ces projets importants, et qui a mis en commun ces experts et ces artistes, ces opérateurs culturels, pour réfléchir sur différentes rénovations, notamment du musée royal d'Afrique centrale, mais aussi nous qui sommes en train d'attendre l'avenue du musée national de la République démocratique du Congo sur l'espace Tembatembe, dont les constructions ont déjà commencé. Voilà, nous sommes dans une phase importante de rénovation, de construction, et nous réfléchissons comment peut être le contenu de ces expositions et son contenant, quelle scénographie, quelles expositions, comment les publics congolais et d'ailleurs peuvent s'émerveiller du nouveau musée. Donc voilà, c'est des projets importants qui nécessitent des réflexions, mais aussi les apports des uns et des autres pour le devenir et l'avenir des musées dans ce pays.
Professeur Joseph Ibongo, merci beaucoup.
Ben, ça, moi, à vous remercier, Pamela, parce que je pense que les gens, en nous écoutant, en nous entendant, en nous écoutant, peuvent avoir au moins l'idée de venir visiter le musée au Mont Gallimard, à l'Académie des Beaux-Arts et à l'Échangeur, et pourquoi pas les autres musées qui sont à l'intérieur
de la République,
à Lubumbashi, Kananga, Mbandaka, Boma, Butembo, Kikuit, etc. Ça sert d'ailleurs pour nous un péché si on ne fait pas un petit coucou à nos professeurs de musée de l'intérieur qui abattent un travail important de conservation du patrimoine.
Et c'est par ici que prend fin cette émission. J'espère que vous avez aimé suivre ce numéro sur Radio Capi. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans le Beau Congo. À bientôt.